Bienvenue au balado Les Petits Caractères, un espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spear, j'ai la grande joie d'être votre animatrice. Et aujourd'hui, on commence l'épisode avec une chronique de Alexandre Plourde, avocat et analyste pour Options Consommateurs. Il veut nous parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans nos discussions, en tout cas dans les miennes, et c'est le pourboire. L'autre jour, j'étais au restaurant, puis le pourboire sur le terminal commençait à 18 %. Ça allait jusqu'à 30 %. Je veux pas avoir l'air cheap, mais quand le premier pourcentage qu'on me propose, c'est 18 %, je ressens quand même un malaise. Est-ce que c'est légitime, selon toi, Alexandre?
Oui, ben depuis le début de la pandémie, on constate en fait deux grands changements dans les pratiques des commerçants quant au pourboire. Le premier changement, c'est comme tu le mentionnes, c'est qu'il y a une hausse importante des montants suggérés pour les pourboires qui peuvent maintenant aller de 18 % jusqu'à 30 %. Le deuxième changement, c'est qu'il y a de plus en plus de types de commerçants différents qui nous demandent du pourboire. C'est plus seulement dans des restaurants avec du service aux tables qu'on nous demande du pourboire. Maintenant, on nous propose d'en payer dans des boulangeries, chez des garagistes, chez des fleuristes ou pour des commandes à emporter dans un resto. Mm-hmm. Puis c'est sûr, je comprends très bien les motivations derrière ces pratiques-là. On sait tous qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre importante en ce moment. Puis pour une entreprise, en mettant l'option pourboire sur son terminal de paiement, ça lui permet d'attirer des employés en leur offrant un revenu supplémentaire. Puis au début de la pandémie, quand beaucoup de petits commerces et de restaurateurs en arrachaient, on se disait que oui, on pourrait les encourager en leur donnant un surplus d'argent, mais maintenant, malgré qu'on soit sorti de la crise, c'est une pratique qui semble s'enraciner.
Ouais.
Puis selon moi, l'augmentation et la généralisation des pourboires, c'est problématique pour les consommateurs pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un principe de base en protection du consommateur, c'est que le prix affiché doit être le prix qui est chargé. Dans une économie, de libre marché comme la nôtre, les consommateurs doivent pouvoir comparer efficacement les prix pour faire les meilleurs choix sans qu'il y ait de frais cachés ou qu'on ajoute un montant supplémentaire en bout de ligne. Sinon, le marché, la concurrence, ça fonctionne pas. Mmh. Un autre problème, c'est évidemment que c'est une pratique qui a un impact sur le portefeuille des consommateurs. Si je dois payer 18, 20, 25 % de plus sur la facture chez plein de commerces, ça fait une grosse augmentation au final, particulièrement dans un contexte où l'inflation, elle nous frappe de plein fouet. Mais surtout, je pense que c'est simplement inéquitable pour les consommateurs. On dirait que le pourboire est de plus en plus utilisé comme une façon pour les commerçants d'externaliser leur coût de main-d'œuvre sur les consommateurs. Au lieu d'augmenter les salaires de leurs employés, les commerçants nous refilent la facture indirectement en comptant sur notre bonne volonté. Mais la solution, dans le fond, ce serait peut-être juste d'augmenter les salaires plutôt que de faire payer les consommateurs.
Ouais, mais en même temps, tu sais, le pourboire, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, là, que c'est plus un peu comme une norme sociale. Est-ce que c'est un peu à nous de mettre un frein à cette norme sociale-là qui évolue peut-être dans un sens qu'on souhaite pas en tant que consommateur?
C'est pas obligatoire, disons, le pourboire, mais c'est malaisant de rien laisser. Il y a bien des gens qui se sentent cheap, dont moi, qui se sentent cheap de pas laisser de pourboire ou juste de donner un petit pourboire quand ça leur est proposé sur le terminal de paiement. Puis quand 15 % c'est le taux le moins élevé qui est proposé, on sent cheap de juste laisser le minimum. Donc
ouais, mais j'aimerais mettre une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que c'est cheap de laisser 15 %
Non, c'est pas cheap de laisser 15 %.
Parce que pour moi, c'est ça. Je suis étudiante, c'est 15 %, ça veut dire que je reconnais ton service, puis c'est ce que je trouve que tu mérites. Puis quand je donnais 18 %, tu sais, j'étais juste comme, j'ai vraiment aimé ton service, puis j'étais contente de donner le 18 %. Mais là, quand c'est 18 % le plus bas qu'on me propose, je me sens cheap, comme tu le dis. Mais j'ai pas.
Puis c'est pas obligatoire de laisser 18, 20, 25 %, mais on se sent un peu pris au piège comme consommateur. C'est un peu une taxe qui est fondée sur la culpabilité. Puis au niveau légal, il n'y a pas vraiment de loi qui encadre le pourboire du point de vue du consommateur. À ma connaissance, les seules lois qui touchent un tant soit peu la question du pourboire sont les lois sur les normes du travail, mais ça n'a pas tellement d'effet sur les consommateurs. Puis oui, tu mentionnes que c'est effectivement une norme sociale, mais chez Option Consommateur, on se fait parfois demander combien de pourboire faut donner à tel commerçant ou à tel autre commerçant, combien je dois donner au taxi, combien je dois donner au barbier. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de montant déterminé. Pourboire, à la base, c'est juste une convention sociale, une norme sociale qui vise à rémunérer le service aux tables. Puis c'est une norme sociale qui reste pas mal vague quant au montant donné, puis quant au type de commerçant aussi qui devrait le recevoir. Puis là, ce qu'on observe, c'est comme tu le mentionnes, c'est qu'il y a une sorte de tentative de modifier la norme sociale qu'on donne plus, qu'on donne plus souvent du pourboire. Puis oui, je pense qu'on devrait résister à cette tendance-là. Je pense que les gens devraient pas se sentir cheap de pas laisser de pourboire un commerçant qui n'offre tout simplement pas de service. Puis en fait, je me demande même s'il n'est pas venu le temps de légiférer sur le pourboire pour éviter qu'on finisse par se faire proposer de payer du pourboire à quincaillerie, quand je vais chez Rona, à la pharmacie ou à l'épicerie même. Il y a des pays dans le monde où ça n'existe pas le pourboire, que, où le service est inclus dans le prix annoncé, puis peut-être qu'on est rendu là, nous autres aussi.
Mais en tout cas, on va développer notre esprit critique sur ce sujet-là. Sujet du jour, nouvel intervenant, Sébastien Bouleris, avocat, conseiller budgétaire et juridique à Options Consommateur. Allô Sébastien!
Bonjour Marianne, j'espère que tu vas bien.
Ben ça va toujours bien quand je vois ta belle petite moustache. Puis j'aime ça faire une petite introduction de nos invités là, parce que ben on nous entend. Souvent un balado, on écoute ça dans l'auto, chez nous. Mais c'est le fun de se faire une image de la personne qui parle. Et toi Sébastien, ben ta couleur préférée c'est le vert, ton signe astrologique Capricorne.
Ouais.
Et le sujet que tu as choisi, c'est la réduflation et la décaliflation. Toi, tu vas plus rester au sujet de la réduflation parce qu'on reçoit un intervenant dans la seconde partie de l'entrevue. Mais j'ai envie de te demander, encore une fois, pour faire ton portrait, pourquoi c'est un sujet important pour toi?
Parce que ça touche tous les consommateurs et les consommatrices du Québec. Donc, et là, dans des périodes de fort il y a beaucoup d'inflation actuellement. Donc, c'est sûr que la réduflation va avoir un rôle à jouer. Donc, moins d'argent dans le portefeuille, moins d'argent dans la sacoche. Donc, faut en parler et on peut savoir ce qu'est le phénomène. Vous allez voir avec des exemples. On va pouvoir également essayer de les éviter.
Mm-hmm. Mais c'est quoi, dans le fond, la réduflation?
La réduflation, ce que c'est le fait de réduire le volume, le poids, la taille d'un produit, mais de garder le même prix. Donc, c'est certain que à la base, si on avait juste augmenté le prix, hein, on l'aurait vu tout de suite, hein, ça a augmenté. Mais là, il faut le calculer. C'est quoi vraiment la perte que j'ai dans mon portefeuille?
Quels sont les différents moyens utilisés par les entreprises pour faire de la réduflation?
J'en ai noté 4. Et là, ben, peut-être qu'à la maison, on va savoir, là, on va se reconnaître dans ça. Le premier, c'est le « ni vu ni connu ». Hein, le petit incognito, comme je l'appelle, c'est le fait de rien changer. C'est certain que l'obligation du fabricant, c'est toujours d'indiquer quand même le nouveau volume, donc la nouvelle quantité. Ça, oui, mais on laisse la boîte du même format et on espère que les consommateurs ne vont pas s'en rendre compte. Hein? Donc, ça, c'est la première façon. Et c'est ça qui coûte évidemment le moins cher
le moins
aussi.
Cher.
On
n'a
rien changé.
T'as pas de rebranding à faire.
Rien du tout. Là, le deuxième qu'on a, c'est en changeant l'emballage. Et là, ce qu'on va essayer de faire du côté des fabricants, c'est d'apporter l'attention du consommateur ailleurs. Hein? Nouvel emballage, nouvelle couleur. Non seulement ça peut être plus coûteux parce qu'on le change, mais on peut également aller chercher plus d'achats. Hein?
C'est vrai.
Nouvel emballage, donc ça attire l'attention. Mm. Donc, une pierre deux coups, on réduit. En changeant, ça passe mieux.
C'est vrai.
Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, moi, c'est celle que j'aime le moins. C'est là où on change la forme. C'est celle-là que je trouve la plus immorale un peu. Hein? Par exemple, je vais l'expliquer plus par exemple, les yogourts. Donc, on peut laisser la forme pareille, donc le même emballage, mais aller creuser en dessous une forme concave qui fait en sorte qu'il y a moins de liquide dedans. Donc, on a changé la forme, le format, mais ça paraît pas trop. Et lorsqu'on le fait puis ça paraît, ben là, on va essayer, par exemple, de mettre ça une forme d'un cône inversé. Je sais pas si ça se dit, un cône inversé.
Ouais.
Parce que ce qui est plus gros ou qui a l'air plus large au départ lorsqu'on le voit et qui rétrécit à sa base, paraît à l'œil plus grand. Donc là, on va changer. Là, on marque nouveau format pour attirer l'attention. Mais en réalité, on le réduit, le format. Hein? Mmh. Donc ça, c'est la troisième. Et la dernière, rapidement, on le voit plus avec les détergents, c'est le fait de réduire le format, mais de donner un échantillon bonus qui vient au départ compenser, par exemple, 500 ml, on l'abaisse à 400, mais on donne un 100 ml. Et là, justement, pour une certaine période, on a la même quantité. On peut même aller chercher des nouveaux acheteurs, hein, vu qu'on donne un petit en prime un échantillon. Et à la longue, ben, on a la réduflation, puisque l'échantillon se perd et on a réduit la quantité.
Mm. Puis ça, c'est une pratique qui, j'imagine, des fois est obligatoire à faire pour que certains produits reste sur le marché. Je te vois vraiment lever les yeux en l'air puis pas du tout être d'accord avec ce que je propose ici. En tant qu'avocat pour les droits du consommateur, est-ce que c'est un sujet qui vient beaucoup te chercher?
Mais oui, parce que c'est pas obligatoire. Là. On pourrait tout simplement, Marianne, là, monter les prix. Là.
Ou me le dire.
Ou le dire. C'est tout simplement ça. On le dit, c'est une période de forte inflation, on va monter les prix, parce qu'il faut que ça suive. C'est pas ça qu'on fait là. On réduit la quantité pour pas nous le dire. Si vraiment on voulait jouer carte sur table, au moins, marque nouveau format, indique nouveau format, réduit.
Mm-hmm.
Et là, ben, le consommateur va faire un choix éclairé. C'est certain qu'au niveau légal, ce l'est légal. Au Canada puis au Québec, c'est ça.
C'est ça que j'allais te demander, mais j'imagine que ça l'est parce que ça a l'air d'une pratique très, très, très courante. Là.
Nous, on aimerait ça chez Option Consommateur que ça change, mais les règles au Canada, c'est tout simplement d'indiquer, c'est obligatoire là, d'indiquer au moins sur la face directe du produit, la quantité. Donc, au moins, on le cache pas en dessous. Faut que ça soit indiqué. Donc ça, c'est correct. Au Québec, on a quelque chose qui s'ajoute. Il faut indiquer le prix par unité de mesure. Que sur l'étiquette, là, on le voit, faut indiquer combien ça revient à combien par 100 ml ou 100 grammes, par exemple. Donc ça, c'est le moyen le plus facile. Puis encore là, hein, c'est pas
mais
tout
ça, petit. C'est écrit sur les étiquettes comme à l'épicerie, pas sur le produit en tant que tel.
Non, exactement. Ouais. Donc, sur le et pas en gros caractère, là, hein, Marianne, c'est tout petit. Et là, au moins, on peut voir, par exemple, 70 cents par 100 grammes. Et là, si on se souvient, encore là, faut se souvenir, c'est quoi le volume avant pour calculer, c'est combien qu'on vient à perdre. Donc, c'est beaucoup sur les épaules du consommateur et donc légalement, là, on devrait, selon nous, on devrait obliger les fabricants à indiquer qu'il y a eu une réduction sur le produit.
Ben, je comprends mieux la réduflation. On va se diriger vers la décalinflation?
Décalinflation,
décalinflation. Ils sont quasiment plus faciles à dire en anglais.
Ouais,
réduflation, shrinkflation, puis décalinflation, skimflation.
Exactement.
Bon, du moins, on voit ce que ça veut dire pour la réduflation. On se dirige tout de suite avec la décalinflation.
La décalinflation, c'est le fait de d'offrir moins la qualité sur le service ou le produit. Donc ici, on change la qualité et non pas la quantité. Et on garde ça toujours au même prix. Donc, quelques exemples rapidement, on peut le voir, de longues attentes au service à la clientèle. Hein, donc ça, on le voit, on le perçoit, le service a changé, donc il y a moins de gens pour s'en occuper, mais on a laissé ça au même prix. On a également tout ce qui est forfait. Avant, peut-être que ça incluait le forfait c'était avec trois services, maintenant il y en a juste deux, le même prix. Et on peut le voir aussi avec tout ce qui est restauration, donc c'est plus long à se faire servir, ou la qualité des aliments a diminué et le prix est resté le même.
En attendant la connexion avec le professeur Jean-Luc Guéra, directeur de l'Institut de vente au HEC Montréal et professeur, parce qu'il est en Zoom avec nous, ben, je me suis dit, Sébastien, que tu pourrais nous donner quelques exemples de réduflation.
Oui, ben
les produits.
ceux qu'on note le plus souvent, le jus d'orange, hein, on a ici là, de 1,65 litres à 1,5. On a des croustilles de 180 grammes à 165, des craquelins 175 à 145. On a des biscuits ou même les pizzas surgelées, emballées là, de 630 grammes à 550 grammes. Donc, ça va de tout, puis tout ce que les gens peuvent consommer.
Mais je vois que c'est surtout des produits de nourriture.
Oui, mais ça touche, dans les exemples qu'on a là, mais il y en a pas qui sont à l'abri, là. Ça existe aussi dans tout ce qui est produit à savon, à vaisselle, ces choses-là. Ça s'opère également dans ces produits-là. Mmh. C'est malheureux, mais c'est plus de poids sur les épaules des consommateurs, d'être vigilant, prendre le temps. Je fais mon mea culpa, je le sais pas. Moi, la boîte de craquelin que j'ai achetée hier, c'était combien, là? Mmh. Mais faut essayer.
Oui. On me fait signe que M. Guéhaille parmi nous. Alors, le professeur et directeur de l'Institut de vente au HEC Montréal, M. Jean-Luc Géa, se joint à notre discussion. Bonjour, M. Géa.
Bonjour.
Alors, dans la première partie de l'entrevue, on a discuté de réduflation avec Sébastien, avocat chez Options Consommateurs. Avec vous, j'avais envie qu'on parle un peu plus de la décalinflation, donc le fait de recevoir des moins bons services pour le même produit. En tant que directeur de l'Institut de vente au HEC Montréal, qu'est-ce qui vous inquiète au niveau du service à la clientèle?
OK. Si on revient à l'article qui avait été écrit par Marie-Ève Fournier, oui. Quand on regarde la situation, c'est que suite à la pandémie, les gens ont pris l'habitude de possiblement travailler à distance. Depuis longtemps, nous parlions du concept de travail-famille, de plus de loisirs. Et avec les technologies d'aujourd'hui, les gens, les consommateurs, des personnes comme vous et moi, aiment beaucoup cette idée. Et l'idée sous-jacente, c'est donc de travailler un peu moins, possiblement des semaines de 4 jours. Mais comme nous sommes en même temps dans une situation où est-ce qu'au niveau d'une diminution du personnel, parce qu'on regarde les personnes les plus nombreuses, c'était la période des baby-boomers, ceux qui ont suivi les X, les Y, les Z, les milléniaux, etc., sont un petit peu moins nombreux. Il y a moins de personnes disponibles pour travailler, ce qui fait que si tout le monde veut travailler 4 jours par semaine, ben à ce moment, il va manquer du monde pour pouvoir donner les services que nous recherchons.
Mmh. Puis est-ce que c'est tous les domaines qui semblent touchés par cette tendance-là ou il y en a certains qui seraient moins affectés?
Je pense qu'il y a certains domaines qui sont un petit peu plus touchés que d'autres. C'est surtout les domaines où est-ce qu'il y a beaucoup de services à valeur ajoutée, comme par exemple les restaurants, les magasins. Ça les concerne beaucoup. Alors, tout le monde aimerait, s'ils font des semaines de 4 jours, pouvoir aller au restaurant puis avoir du service, mais on regarde les restaurants, ils manquent de plus en plus d'employés, et c'est pour ça qu'une des solutions que les restaurants emploient, qu'on retrouve de plus en plus, c'est de fermer, par exemple, les lundis et mardis. Ouais. Alors, ça leur permet de pouvoir répondre à leur clientèle et de garder leur personnel en leur offrant du 4 jours semaine au lieu de... Dans le domaine de la restauration, c'est du 7/7, donc là, ils sont obligés de diminuer.
Puis une de vos expertises, c'est dans la gestion des équipes de vente en B2B ou B2C, B2C, donc business to business ou business to consumer. Est-ce que vous avez remarqué une évolution des besoins de gestion dans ces branches-là dans les dernières années?
Ah, définitivement. Écoutez, dans le temps, la gestion des équipes de vente se faisait en face-à-face, ça se faisait au bureau. Ensuite, les équipes de vente, les vendeurs, les représentants commerciaux, ils allaient chez les clients. Maintenant, de plus en plus avec la technologie, les gens vont travailler plus de chez eux à la maison, puis ensuite se rendre chez les clients. Donc, il faut gérer à distance. Ça se fait relativement bien, la gestion à distance. Par contre, il faut motiver, il faut former, il faut aider, et c'est un petit peu plus difficile à distance.
Ouais, c'est ça, c'est un peu plus difficile à distance, donc ça se pourrait que le marché du travail puis le service qui est reçu soit impacté par cette formation qui se fait plus à distance.
Je crois que le fait que l'on soit à distance impacte beaucoup. On n'est plus, c'est pas la même chose que d'être en face à face. C'est pas le même type de relation. C'est pas le même type d'échange. Donc c'est pas évident.
On dirait qu'on est comme un peu déconnecté des rapports humains. Puis c'est, je sais pas ce que vous en pensez.
Vous avez raison.
Ouais,
vous avez raison, il y a une botte. Ce contact humain diminue. C'est vrai qu'avec des outils comme Zoom, comme Teams, comme Skype, on essaye de compenser, mais écoutez, ça ne remplace pas le contact face à face, le contact humain.
Oui. Puis, justement, le phénomène de décalinflation, donc de recevoir un moins bon service pour les mêmes produits ou les mêmes services qu'on a, par exemple, au restaurant ou autre. Au bout du compte, ça revient un peu aussi la responsabilité des consommateurs de vouloir plus travailler, selon ce que vous dites.
Ben, ça veut dire, je dis pas que c'est de leur responsabilité. Ce que j'essaie simplement d'expliquer ou d'amener, c'est que si tout le monde veut travailler moins, c'est sûr qu'en bout de compte, si on a moins de personnel, on va obtenir en échange moins de services. Ouais, j'appelle ça un cercle vicieux. En fin de compte, si je travaille moins d'heures, et compte tenu de notre fiscalité, des fois, travailler quelques heures de moins, on ne voit pas grande différence en bout de ligne, ben, peut-être si je travaille moins d'heures, ben, j'ai envie de m'amuser un petit peu plus, de profiter un peu plus de la vie. Donc, je vais aller acheter des services plus. Et là, à ce moment, ben, la tierce partie qui va nous donner ce service-là, il manque aussi d'employés pour pouvoir nous donner ce service. Donc, en quelque sorte, on fait partie du problème.
Mais c'est ça, je voulais vraiment pas mettre des mots dans votre bouche ou vous faire dire quoi que ce soit, mais c'était comme la spécification que je cherchais, puis c'est super, donc merci pour ça. Puis, selon vous, est-ce que le manque de main-d'œuvre est devenu une excuse trop facile, trop utilisée pour donner un moins bon service?
Il y a un peu de vrai dans ce que vous venez de dire. Oui, ça commence à être une excuse à toutes les sauces, mais c'est aussi une réalité. C'est la combinaison des deux.
Ouais.
Et voyez-vous, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'on manque de personnel, dès qu'on trouve quelqu'un qui veut prendre le poste, ben là, on fait une formation très courte et très rapide, parce qu'effectivement, on a besoin que la personne soit opérationnelle hier, au lieu d'attendre dans une semaine. Donc, on veut vraiment ça très rapidement. Et deuxièmement, vu que les employés ont actuellement beaucoup, beaucoup de choix et changent d'entreprise, donc la formation devient un petit peu plus minimaliste. Et le résultat est bien sûr un moins bon service.
En effet, ça fait vraiment une roue complète. Puis, dans le meilleur des mondes, comment est-ce que vous voyez évoluer le marché du travail?
Je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je dis, c'est qu'à un moment, ça va peut-être... Ce que je pense, c'est que ça va finir par s'équilibrer. Vous savez, nous sommes quand même dans un marché de libre concurrence. À un moment, ça va s'équilibrer. Donc, peut-être, au lieu d'avoir 10 restaurants où est-ce que je pourrais aller souper, ben, il y a quatre qui ont peut-être disparu du marché. Il n'en reste plus que 5 ou 6. Donc, à ce moment, il va avoir l'adéquation avec le personnel. Il va avoir un peu moins de variété, un petit peu moins de services. L'autre possibilité aussi, c'est bien sûr l'ajout de technologies. Nous sommes chanceux qu'actuellement, les technologies sont au rendez-vous. Elles évoluent à tous les jours. Il y a une grande amélioration. Par exemple, beaucoup de magasins ont maintenant des caisses électroniques où est-ce qu'on peut se servir soi-même. Et ce que je dis aux employeurs et aux compagnies, il faut s'assurer de donner de la valeur ajoutée avec notre personnel. Donc, si on a, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est simplement pour travailler au caisse, ça n'a pas nécessairement de la valeur ajoutée, sauf pour certaines personnes, soit qui ont de la misère avec la technologie ou qui ont certains handicaps. Donc, pour ces personnes-là, il faut qu'il y ait une personne humaine à la caisse. Mais pour les autres, ben, peu à peu les habituer à aller à des caisses électroniques. Je vous donne l'exemple du guichet automatique. Le guichet automatique dans les banques a remplacé beaucoup les caissiers et caissières. Et aujourd'hui, on n'a plus l'habitude, puis on fait des transactions bancaires sur Internet, etc. Donc, il y a un petit peu un changement au niveau de la façon de procéder dans le modèle d'affaires.
Puis, en tant que consommateur et travailleur, quelles questions on devrait se poser par rapport à l'enjeu de la décalinflation?
C'est une bonne question.
Oui, prenez le temps d'y répondre. Il n'y a pas de souci. C'est plus
question.
Dans le sens où qu'on soit consommateur ou qu'on soit travailleur, on est impacté par la décalée inflation. Parce que quand on est en congé, ben on a moins de services. Fait quelles questions on devrait tous et chacun se poser par rapport à l'avenir qu'on a envie d'avoir quand on va dans un magasin, quand on va dans un restaurant?
Écoutez, à court terme, je pense que l'individu, quand il va dans un magasin ou quand il va dans un restaurant, il veut avoir du service. Maintenant, la question qu'il faut se poser, si on est tous dans ce cercle, que je pourrais appeler même un cercle vicieux, où est-ce qu'on veut moins travailler, etc., la question c'est, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher? Parce que si nous ne travaillons pas, il y a quelqu'un d'autre qui va accepter de travailler pour nous, donc il va falloir qu'on accepte de le payer et de le reconnaître aussi.
Ouais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dans le fond.
C'est impossible. C'est impossible. Puis je trouve que c'est très important d'apprécier les gens qui nous servent, de les remercier, d'être généreux dans les pourboires, puis de comprendre que il n'y a pas vraiment de solution. Nous avons un problème de démographie actuellement. Comme je dis, la jeune génération elle est moins nombreuse que la vieille génération. Ou la génération plus âgée, et à partir de là, il faut apprécier quand on a du service. Donc, je vous dirais que les économistes, la dernière fois que j'ai eu un échange sur le sujet, ils parlent ça va prendre minimum une 10 à 15 ans avant de se rééquilibrer, parce que la situation, on en parlait déjà depuis une vingtaine d'années, les baby-boomers, c'était une tranche de population la plus nombreuse. Là, les baby-boomers, ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, il y a 20 ans, 25 ans, on parlait de liberté 55. Hein?
Oui.
Là, on va oublier ça, mais les baby-boomers, actuellement, sont plus vieux que 55, et plus ils vieillissent, plus ils ont besoin de services, mais à un moment, ils vont disparaître. Et ça va possiblement se rééquilibrer, mais ça va prendre beaucoup de temps. D'un autre côté, j'ai parlé tout à l'heure des technologies. Les technologies s'améliorent. Il faut pas penser à la technologie d'aujourd'hui pour demain. Il faut penser à ce qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent. Il y a une amélioration, l'intelligence artificielle, etc., qui pourra éventuellement nous donner un certain niveau de service pour compenser. Moi, j'ai confiance dans la nature humaine. On finit toujours par s'adapter.
Ben, ça termine vraiment sur une note positive. Alors, merci beaucoup, Monsieur Géa, pour votre intervention, pour nous avoir aidé à y voir plus clair. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Pour vos commentaires, suggestions, puis je tiens aussi à vous remercier les auditeurs d'être là. Mais vous pouvez nous rejoindre sur notre Facebook ou notre Instagram, Option Consommateur Facebook, Option Conso Instagram. Merci beaucoup et à la prochaine.